RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
17h45 sur RRB, Info Week-end, Mickaël Juneski.
Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, Didier Migaud, garde des Sceaux, Jean-Noël Barrot, chef de la diplomatie, Sébastien Lecornu reste ministre des Armées. Le gouvernement Barnier est en place, plus de trois mois après la dissolution de l'Assemblée nationale. À suivre dans cette édition, les réactions de la classe politique calédonienne à l'annonce du nouvel exécutif, alors que François-Noël Buffet est devenu ministre des Outre-mer, même si le dossier calédonien devrait être suivi par Matignon ou l'Élysée. Un important dispositif de sécurité toujours déployé sur le territoire pour ce long week-end et l'opération Vague Bleue qui continue. Plus de 6000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés. Pour certains, le congé de fin de semaine se poursuivra jusqu'au mardi 24 septembre. Les scolaires, comme de nombreux services publics, feront le pont, le point et les informations utiles dans ce journal. L'actualité sportive du football, suite de la cinquième journée de Ligue 1 avec l'Olympico Lyon-Marseille en match de clôture demain matin. En Calédonie, le premier meeting de la saison de natation, 120 nageurs étaient heureux de retrouver les bassins au CNC ce dimanche. Et à la fin de ce journal, ne manquez pas la rediffusion du magazine Transparence. C'est Jean-Pierre Jaoué, porte-parole du Palika, qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Week-end pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. C'est donc l'information du jour. La composition officielle du gouvernement Barnier a été dévoilée. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, a énuméré les noms des 39 membres de l'exécutif, dont 19 ministres de plein exercice. C'était peu avant 5 heures ce matin pour nous, vers 20 heures, heure de Paris. La fin d'une longue attente, donc, plus de deux semaines après la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre. Un enseignement, la droite est quasiment autant représentée que le camp macroniste, avec 17 ministres de la majorité sortante, 14 ministres de droite. On fait le point sur l'équipe qui s'apprête à gouverner avec Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Avec une seule personnalité de gauche, l'ancien socialiste et président de la Cour des comptes, Didier Migaud, nommé ministre de la Justice et numéro 2 du gouvernement. Au centre, Maud Bréjon devient porte-parole, Guillaume Kasbarian passe du logement à la fonction publique, Benjamin Haddad hérite du ministère délégué à l'Europe et Marc Ferracci, un très proche d'Emmanuel Macron, de l'industrie. Quatre ministres sortants conservent leur place, Rachida Dati à la culture, Sébastien Lecornu aux armées, Agnès Pannier-Runacher nommée à la transition écologique et Catherine Vautrin à la décentralisation. Chez les Républicains, outre Bruno Retailleau à l'intérieur, Annie Genevard s'installe au ministère de l'Agriculture, le député du Bas-Rhin Patrick Hetzel devient ministre de l'Enseignement supérieur et la sénatrice de Loire-Atlantique Laurence Garnier est nommée secrétaire d'État à la consommation. A noter enfin que le ministère de l'Économie est directement rattaché auprès du Premier ministre, avec deux personnalités nommées, le député de Haute-Savoie Antoine Armand à l'économie et l'actuel directeur général de Business France, Laurent Saint-Martin, chargé du budget.
Et pour l'opposition, ce gouvernement n'a ni légitimité ni futur, déclare Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. Les partis de gauche ont déjà fait part de leur intention de censurer le nouvel exécutif. La secrétaire nationale du parti Les Écologistes, Marine Tondelier, a quant à elle déclaré « Le Premier ministre fait du macronisme empire ». Quant au Rassemblement national, il avait promis de ne pas faire tomber le gouvernement dans un premier temps. Mais les réactions des cadres du parti laisse entendre une fin précoce pour le gouvernement de Michel Barnier. C'est le retour du macronisme par une porte dérobée, selon Jordan Bardella. C'est donc un gouvernement qui n'a aucun avenir, poursuit le président du RN. Pour Marine Le Pen, les Français qui ont exprimé par deux fois lors des dernières élections leur volonté de rompre avec cette année de renoncement et d'échec du macronisme se retrouvent avec un gouvernement remanié, éloigné du désir de changement et d'alternance exprimé en juin dernier. Fin de citation. Éric Ciotti, du nouveau parti UDR, a indiqué quant à lui que le gouvernement de Michel Barnier, c'est la victoire du macronisme qui absorbe de nouveaux alliés issus des Républicains et de la gauche pour poursuivre la même politique, maire de la même faillite nationale. Fin de citation. Les premières passations de pouvoir dans les ministères auront lieu dès aujourd'hui. Notez qu'un premier conseil des ministres est prévu lundi. C'est le sénateur Les Républicains François-Noël Buffet qui est le nouveau ministre des Outre-mer en remplacement de Marie Guévenoux. Un ministère des Outre-mer qui n'est plus rattaché à l'intérieur, comme c'était le cas dernièrement, mais qui dépend directement de Matignon. Les détails avec vous, Elisabeth Noir.
Un ministre des Outre-mer directement rattaché au Premier ministre, et on parle même, c'est encore à confirmer, d'une personnalité dédiée à la Nouvelle-Calédonie au sein du cabinet du Premier ministre. Ce n'est pas anodin dans l'architecture gouvernementale. Cela signifie que le Premier ministre suivra directement et de très près les dossiers ultramarins et au premier rang d'entre eux, le dossier ultra-sensible de la Nouvelle-Calédonie. Mais on sait que d'autres outre-mer retiennent actuellement l'attention, notamment la Guadeloupe, la Martinique ou Mayotte. Âgé de 61 ans et avocat de profession, François-Noël Buffet est une personnalité forte du Sénat, où il siège depuis 2004 et dont il était depuis 2020 le président de la Commission des lois. C'est à ce titre qu'il est venu en Nouvelle-Calédonie en juin 2022 pour une mission de la Commission des lois qui a publié un rapport avec 6 propositions pour relancer le dialogue en Nouvelle-Calédonie et pour sortir de cette période d'entre-deux. C'est un rapport qui avait lieu après le 3e référendum. Il connaît donc bien la situation calédonienne et les interlocuteurs. Sa nomination et le fait qu'il soit directement rattaché à Matignon sont bien accueillis sur le territoire. La réaction du président du gouvernement, Louis Mapou.
Je pense que c'est une bonne chose. Depuis le 13 mai, la Nouvelle-Calédonie est bloquée. La dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République est venue rajouter à la crise. Donc nous étions dans l'attente de connaître quel serait notre nouvel interlocuteur au plus haut niveau, même si je dois saluer le travail qui a été fait par les équipes sortantes, notamment par Bruno Le Maire et l'Élysée pour nous accompagner dans la passe difficile. Mais en plus qu'on est un fin connaisseur, me semble-t-il, mais je crois, pas me semble-t-il, je crois, de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il a eu à conduire une mission d'information en juillet 2022, dont les conclusions me semblent contenir, si je me souviens bien, les éléments qui sont indispensables pour relancer les discussions en Nouvelle-Calédonie, pour prendre en compte les conséquences de la grande crise dans laquelle nous sommes encore pour une bonne partie, mais que, dont nous sommes en train de sortir. Donc c'est important. Que le Premier ministre avec Michel Buffet soit directement en charge de la situation en Nouvelle-Calédonie pour ce qui nous concerne.
Qu'est-ce que vous attendez d'eux maintenant?
J'attends surtout qu'il y ait une initiative qui soit reprise au plus haut niveau pour qu'on puisse définir ensemble dans quel cadre nous allons évoluer, parce qu'on ne perd pas de vue qu'il y a des élections provinciales qui sont toujours d'actualité pour fin d'année. Pour ce qui nous concerne, nous avons eu à traiter les urgences liées à la crise avec le gouvernement central. Je considère que le soutien était au rendez-vous pour ce dont nous avions besoin, mais nous avons engagé un grand chantier qui est celui du plan de sauvegarde et de refondation et de reconstruction de la Nouvelle-Calédonie, sur lequel nous avons franchi une étape vendredi dernier, puisqu'on a fait un séminaire de gouvernement pour regarder qu'est-ce qu'il en revenait des contributions des uns et des autres. Donc nous avons prévu quelque chose, d'organiser le forum les 10 et 11 octobre. Donc ce que j'attends surtout, c'est qu'on puisse inscrire tout ça dans une démarche qui permette à la Nouvelle-Calédonie de sortir par le haut d'ici les 2 prochains mois, j'ai envie de dire au mois d'octobre ou au mois de novembre, puisqu'on ne sait pas encore si les élections vont être maintenues ou pas. Donc c'est de cela que c'est la priorité du moment, me semble-t-il.
Et en matière d'ordre public, vous attendez également des assurances?
En matière d'ordre public, je pense qu'on ne peut pas faire plus que ce qui a déjà été fait. Je crois qu'il ne faut pas aller au-delà de ce qui a été fait, parce que j'ai fait un communiqué vendredi pour dire ma tristesse et combien on est meurtri qu'on en arrive à ce point-là. C'est quand même la preuve d'un blocage interne dans la société calédonienne, dans la manière dont on prend en charge le vivre ensemble et pour essayer de définir au mieux le destin commun pour les Calédoniens. Donc moi, je demande même qu'on n'aille pas plus loin. Et on espère que, comme le haut-commissaire l'a dit, d'ici le 1er octobre, on passe à autre chose et peut-être que les initiatives qui seraient prises aujourd'hui par le Premier ministre et M. Buffet iraient dans ce sens-là.
Réaction de Louis Mapou. Soutien à l'économie, report ou non des provinciales, reprise des discussions sur l'avenir, retour de l'ordre public. Ce sont les gros dossiers auxquels devra répondre François-Noël Buffet sous l'égide du Premier ministre. Et c'est ce qu'attend également la présidente de la province sud, Sonia Backès, qui a rencontré récemment le nouveau ministre des Outre-mer.
François-Noël Buffet, c'est quelqu'un qui connaît très bien le dossier calédonien. J'ai eu l'occasion de le voir quand je suis allée à Paris il y a 3 semaines. Il a suivi de près les événements depuis le mois de mai. Il a eu des visioconférences avec les responsables politiques calédoniens pendant au plus fort de la crise. Donc c'est quelqu'un qui a suivi de très près, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis, on constate que c'est désormais un ministre de plein exercice rattaché directement au Premier ministre. Si compte tenu des ingérences étrangères qu'on constate et ce qui se passe en Martinique, en Guadeloupe et de l'action de ce qui se passe avec l'Azerbaïdjan, je pense que c'est une bonne chose d'avoir un ministre directement rattaché au Premier ministre.
Dans ce gouvernement, on a plusieurs personnalités qui connaissent la Nouvelle-Calédonie. On pense bien sûr à Sébastien Lecornu qui reste ministre des Armées, à Bruno Retailleau qui est venu en Calédonie, qui est aujourd'hui ministre de l'Intérieur. On peut penser qu'il y aurait une sensibilisation forte au dossier ?
Oui, Bruno Retailleau et Sébastien Lecornu, j'ai eu également l'occasion de les voir il y a 3 semaines. Sébastien Lecornu, tout connaît son attachement à la Nouvelle-Calédonie et son action en faveur de la Nouvelle-Calédonie. Et Bruno Retailleau, qui était chef de groupe des Républicains au Sénat, a suivi également de très près. On va avoir besoin d'un ministre de l'Intérieur qui nous maintient une présence forte des forces de l'ordre, parce qu'on voit bien que la situation, si elle est plus calme, n'est stabilisée que parce qu'il y a une présence importante de forces de l'ordre. Donc c'est important d'avoir un ministre de l'Intérieur qui est sensibilisé sur le sujet.
Qu'est-ce que vous attendez maintenant de ce nouveau gouvernement concernant le dossier calédonien ? Retour à l'ordre, mais aussi reprise des discussions éventuellement ?
Oui, retour à l'ordre. On a un gros sujet économique qui devient très très urgent. Donc je pense qu'il faudra également sensibiliser le ministre de l'Économie et des Finances, qui est sans doute moins sensibilisé au dossier calédonien. Et puis évidemment, voir comment on sort de la situation actuelle avec la question de la date des élections qui paraissent difficiles à organiser d'ici le 15 décembre compte tenu de la triche qu'il y a eu lors des législatives et de l'absence de sécurité partout. Donc il y a la première question qui sera celle du report ou non des élections et puis de comment on met en place un statut qui permet à chacun de vivre en sécurité.
Depuis Paris, le député Nicolas Metzdorf explique lui aussi sa satisfaction et d'abord sur la composition et l'architecture du nouveau gouvernement.
Enfin, un gouvernement de plein exercice. Je crois qu'il y a des dossiers urgents et le dossier le plus urgent aujourd'hui pour la France, c'est le retour à l'ordre en Nouvelle-Calédonie et des solutions économiques et politiques. Donc on va pouvoir avancer désormais. Je suis satisfait de voir que c'est un gouvernement quand même globalement à droite. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les non-indépendantistes. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que le ministre des Outre-mer est rattaché directement à Matignon. Et donc ça confirme ce que m'avait dit Michel Barnier, dans la mesure où il allait gérer lui-même directement le dossier calédonien. Donc on peut aujourd'hui affirmer sans trop de crainte que le dossier calédonien est géré directement par Matignon.
Lors d'un entretien avec le cabinet du Premier ministre il y a quelques jours, Nicolas Metzdorf avait en effet eu l'assurance que le dossier calédonien serait directement traité par le Premier ministre. Et il est soulagé qu'il y ait enfin un gouvernement de plein exercice.
C'est important pour la question calédonienne dans la mesure où tant qu'il n'y a pas de gouvernement, tout Paris s'excite pour composer un gouvernement et qui va y rentrer et quels seront les rapports de force. Donc c'est vrai qu'on était dans la politique politicienne à Paris et que donc du coup les questions importantes comme la Nouvelle-Calédonie n'étaient pas forcément tout de suite à l'ordre du jour. Donc aujourd'hui, maintenant qu'il y a un gouvernement de plein exercice, qu'il y a un président de la République, qu'il y a un Premier ministre, tout le monde en ordre de marche, les dossiers vont pouvoir avancer. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Ça arrive tard, mais ça arrive.
Réaction également de Virginie Rufnak, chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Elle aussi voit d'un bon oeil la nomination de François-Noël Buffet et l'orientation politique du gouvernement Barnier.
On constate déjà que ce gouvernement est composé largement de notre famille politique, c'est-à-dire de la droite républicaine, ce qui pour nous est une bonne chose, notamment sur des ministères qui concernent la Nouvelle-Calédonie qui sont importants. Je pense notamment à la nomination de François-Noël Buffet au ministère de l'Outre-mer. C'est une très bonne chose. François-Noël Buffet, qui était président de la Commission des lois, est un fin connaisseur du dossier calédonien. Il a une très grande capacité d'écoute, d'analyse. C'est une chance dans le contexte que connaît la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui pour traiter notre sujet avec sérieux et approfondissement. Donc c'est vraiment une bonne chose. Par ailleurs, nous sommes satisfaits bien sûr que Bruno Retailleau, dont on connaît les valeurs encore de droite, donc je veux rappeler que au centre de ces valeurs de droite, il y a la sécurité et l'ordre pour l'ensemble des Français dont font partie les Français de Nouvelle-Calédonie. Nous sommes donc satisfaits bien sûr que Bruno Retailleau assume cette responsabilité. Nous espérons que ce gouvernement pourra vivre et gouverner, qu'il ne sera pas trop perturbé par une forme d'agitation et d'hystérie au niveau national, sentant le climat politique. Et nous espérons que les décisions prises par le gouvernement Barnier pourront donner de la sérénité et de l'apaisement à la fois à la vie politique nationale, mais aussi pour la Nouvelle-Calédonie dans les temps très difficiles que notre territoire vit aujourd'hui.
Et puis satisfaction également pour Philippe Dunoyer de Calédonie Ensemble. Il parle de bonnes nouvelles.
La désignation d'un gouvernement de plein exercice, enfin, c'est forcément une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle d'abord pour la France et puis une bonne nouvelle pour la Nouvelle-Calédonie. On a un ministre de plein exercice, il est rattaché directement à Monsieur le Premier ministre et en l'occurrence, François-Noël Buffet, quelqu'un qui connaît vraiment bien la Nouvelle-Calédonie. On a l'avantage de l'avoir. Président de la commission des lois du Sénat et nombreuses reprises, je l'avais rencontré au Sénat, il est venu en Nouvelle-Calédonie, il connaît les interlocuteurs, il connaît, je pense, très bien la problématique qui est la nôtre. C'est un homme de consensus, un homme d'écoute, de dialogue. Donc moi je salue sa nomination qui d'abord nous permet d'avoir un interlocuteur dédié qui est en prise directe avec le Premier ministre. Je pense que c'est des conditions qui sont absolument nécessaires pour qu'on trouve trouve une solution politique. Puis c'est aussi très important, de manière très, très urgente, également dans la perspective de la présentation de la résolution et du plan 2024-2029 pour permettre à la Nouvelle-Calédonie d'être sauvée des conséquences économiques et sociales désastreuses qu'elle vit. Lui aussi aura déjà les paramètres en tête et les personnes qui sont parties à Paris auront l'occasion de le rencontrer pour faire toucher du doigt, si besoin était, l'énormité du besoin qui est celui des Calédoniens.
Et enfin, sur l'échiquier politique calédonien, la réaction du président de l'Union calédonienne, Daniel Goa. Il est satisfait que la France ait enfin un gouvernement.
Moi, je dirais que c'est une bonne chose, parce qu'enfin, on a un gouvernement. Et c'est quand même une exception dans la Ve République. On est autant de temps entre le gouvernement démissionnaire et puis les nouveaux. Et donc, évidemment, avec le temps qui court, ça fait beaucoup de paroles qui circulent. Sont bons pour ceux qui tiennent la route pour certaines et puis qui ne tiennent pas la route pour d'autres, mais qui influencent quand même l'opinion. Et donc nous, en ce qui nous concerne ici, ben, nous attendons de voir la mise en place du gouvernement, voilà, ces choses faites. Maintenant, nous attendons la suite, quoi. Nous serons prêts à aller au travail avec eux, mais maintenant, il faut laisser venir.
Vous attendez des signes pour une reprise, éventuellement des discussions avec l'exécutif à Paris ?
Pas à Paris. Le congrès du FLN a dit que c'est ici.
Des discussions à Nouméa et non à Paris pour l'Union calédonienne. Ce sera aussi l'un des dossiers à traiter pour le nouveau ministre en charge des Outre-mer. Précisons que la passation de pouvoir rue Oudinot entre François-Noël Buffet et Marie Guévenoux aura lieu dans la soirée pour nous.
Merci Elisabeth Noir. J'ajoute que le Rassemblement et les Loyalistes ont exprimé par voie de communiqué ce soir leur remerciement à Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, deux ministres sortants, je cite, « amis de la Nouvelle-Calédonie pour leur indéfectible soutien depuis la date de leur nomination et de poursuivre. Les Loyalistes et le Rassemblement LR se tiennent désormais à la disposition du nouveau gouvernement pour discuter à Paris ou à Nouméa de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. » Fin de citation. Il est 18h passé de 2 minutes. On se retrouve après une courte page de publicité pour parler notamment du dispositif de sécurité toujours déployé pour ce long week-end. A tout de suite.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout-petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal avec vous, Mickaël Juneski.
Au chapitre des interventions des forces de l'ordre, pas de faits graves à signaler, mais une activité soutenue sur l'ensemble du territoire. C'est ce qu'annonce le Haut-Commissariat dans son point de situation après une nuit de vendredi à samedi qui s'est déroulée dans un calme relatif, Léana Colombo.
Plusieurs quartiers de Nouméa ont nécessité l'action de la police et des pompiers pour des entraves à la circulation et des feux de végétation. On citera les secteurs de Montravel, Rivière-Salée, Tindu-Caméré ou encore Pécassis. Dans l'agglomération, les gendarmes ont procédé au déblaiement de nombreux obstacles sur la Save Express. Ils ont été confrontés à des barricades enflammées, notamment à Dumbéa, dans les secteurs d'Auteuil et Jacarandas, mais aussi à Païta, du côté du Montmont et du col de la Pirogue. Au Mont-d'Or, dans la partie sud, les pompiers sont intervenus sur plusieurs départs de feux de brousse le long de la RT1 et de la briqueterie. La gendarmerie est intervenue quant à elle à la Conception. Lors de ces opérations de sécurisation, les forces de l'ordre ont subi des caillassages qui ont fait 3 blessés. Aujourd'hui, les pompiers sont de nouveau intervenus sur divers feux de broussailles à Nouméa. Et on notera cet après-midi une tentative d'incendie sur le golfe de Dumbéa. La gendarmerie a procédé très rapidement à l'interpellation des quatre auteurs des faits.
Le dispositif exceptionnel de sécurité mis en place par le Haut-Commissariat reste mobilisé jusqu'au 24 septembre. Plusieurs mesures dissuasives sont déployées, comme par exemple une présence accrue des forces de l'ordre.
Et oui, pour rappel, près de 6 000 policiers, gendarmes et pompiers sont mobilisés. Des contrôles routiers sont effectués un peu partout sur le territoire. Et dès demain, des centres de commandement spéciaux verront le jour pour une plus grande efficacité et une meilleure réactivité. À Nouméa, par exemple, le commissariat central sera doté de 2 zones équipées de radios, entre 120 et 140 caméras de surveillance, et seront gérées par une dizaine d'opérateurs. Des mesures administratives viennent s'ajouter, comme le couvre-feu de 18h à 6h du matin, mis en place depuis hier. Et on notera aussi l'interdiction des rassemblements, l'interdiction d'achat et de transport d'alcool et l'interdiction de transport d'armes.
Vous écoutez RRB, il est 18h05.
Demain, ce sera la suite d'un long week-end pour beaucoup d'entre vous, si vous faites le pont jusqu'au 24 septembre. On rappellera toutefois ces informations utiles en raison des mesures exceptionnelles prises par le Haut-Commissariat ou tout simplement pour ce week-end prolongé. Quelques changements et fermetures sont à prévoir, Léana Colombo.
Oui, les services municipaux des communes, tout comme les services du gouvernement, seront fermés demain et mardi inclus. Les usagers seront de nouveau accueillis dès mercredi 25 septembre aux horaires habituel. Les écoles seront également fermées jusqu'à mercredi. Et puis notez une interdiction temporaire des activités nautiques ce mardi en raison du dispositif de sauvegarde maritime. La circulation des engins nautiques sera interdite de 6h à 18h dans la bande littorale des 300 mètres de Lens-au-Bœuf, de la baie des Citrons, de la plage de Lens-Vata et du Château Royal. Les activités nautiques non motorisées et la baignade restent autorisées. Côté culture, le Ciné-City fermera exceptionnellement ses portes ce mardi. Le cinéma rouvrira aux horaires habituels dès mercredi. Et enfin, le Sénat coutumier a décidé de reporter son événement prévu demain et mardi dans l'enceinte de l'institution à Nouville.
Demain, vous retrouverez vos programmes aux horaires habituels sur l'antenne d'RRB. En revanche, ce mardi sera un jour férié et notre grille sera donc adaptée avec Info Première, non pas à 5h58 mais à 6h30. Info Matin, votre grand journal du matin à 7h au lieu de 16h30. Info Mag à midi au lieu de 11h30. Il n'y aura pas d'invité du matin ni de magazine citoyen. Info Soir reste en revanche programmé à 17h45. Un rendez-vous d'antenne. Demain matin, c'est Willy Gattuo qui sera notre invité du matin. Le responsable des comités de résistance citoyenne sera dans nos studios à 7h30. À la fin de ce journal, ne manquez pas la rediffusion du magazine Transparence. C'est Jean-Pierre Jaoué, l'un des porte-parole du Palika et chef du groupe UNI au Congrès, qui livrait vendredi à Elisabeth Noir son analyse de la situation. Une émission également disponible en podcast audio et vidéo sur notre site internet www.rrb.nc. Et puis, notez enfin que cette semaine, l'invité du grand rendez-vous européen CNews Les Échos sera Robert Ménard, maire d'hiver droite de Béziers. Une interview que vous retrouverez dans son intégralité sur notre antenne demain soir, juste après Info Soir, votre grand journal de 17h45. L'actualité dans les Outre-mer, en Martinique, alors qu'un mouvement social contre la vie chère a dégénéré en violences urbaines, la CRS 8 est déployée sur place. Il s'agit de la 8e compagnie républicaine de sécurité, Guillaume Dominguez d'Europe 1.
La CRS 8 est mieux équipée et mieux préparée que les compagnies de CRS classiques pour lutter contre les violences urbaines. Il faut la voir un peu comme les groupes d'intervention type RAID ou GIGN, c'est-à-dire que lorsqu'elle n'est pas en mission, ces unités s'entraînent et se tiennent à disposition du ministère de l'Intérieur en cas de crise, une caractéristique qui lui permet d'être déployée extrêmement rapidement, et c'est cette force de frappe qui est nécessaire aujourd'hui au vu de la violence des mobilisations en Martinique, selon Grégory Joron, secrétaire général du syndicat de police unité.
Il y a un usage des armes beaucoup plus décomplexé qu'ailleurs, ça c'est une réalité. Dès la première nuit d'émeute, nos collègues martiniquais ont fait face à de nombreux tirs de chevrotine, donc c'est évidemment plus risqué, ça reste des territoires assez abandonnés, malheureusement un territoire qui est gangréné par les stupéfiants, gangréné par la circulation des armes par une misère sociale.
60 à 80 membres de cette unité spéciale sont attendus ce matin en Martinique. Ils seront opérationnels dès la descente de l'avion.
Guillaume Dominguez pour Europe 1. Dans le Pacifique, en bref, les dirigeants des États-Unis, de l'Australie, de l'Inde et du Japon se sont déclarés très préoccupés par les tensions en mer de Chine méridionale et orientale, tout en évitant de mentionner directement Pékin. À l'issue du sommet qui se déroulait ce samedi à Washington, la Chine nous met à l'épreuve, va affirmer Joe Biden, le président des États-Unis. Et puis l'élection présidentielle américaine débute déjà. Les bureaux de vote ont ouvert dans 3 États, le Minnesota, le Dakota du Sud ou bien la Virginie, pour le vote anticipé. Selon les règles en vigueur dans chaque État, le scrutin peut se dérouler sur plusieurs semaines. Il est 18h09, restez avec nous. Après la pub, on voit toute l'actu sport.
Le fitness débarque au quartier latin avec The Box. Un univers où l'on casse les codes avec des entraînements pour tous, des cours collectifs agréés, les MILS et des cours coachés en small group. The Box, ouverture le 30 septembre. Renseignements au 74 08 25.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et tout le sport, Mickaël Juneski.
Et on ouvre nos pages sport avec du football. 5 matchs sont au programme cette nuit et demain matin sur les terrains de Ligue 1, Léo Fichot.
Et ça commence à minuit, Monaco reçoit Le Havre, puis à 2h, 3 rencontres, Montpellier affronte Auxerre, Toulouse se déplace à Brest et Nantes joue sur la pelouse d'Angers. Antoine Comboiré qui n'a toujours pas digéré la défaite de la semaine dernière, mais le coach des Canaris sait que son équipe doit aller de l'avant.
On ne peut pas changer le résultat, donc voilà, on a gardé la frustration, on a gardé même la colère en nous. Maintenant, on a un autre adversaire, il faut être capable justement, à travers ce qu'on a vécu dimanche dernier, de faire différemment, et puis surtout, voilà, l'idée c'est de renouer avec la victoire, bien sûr. Il faut se mettre dans la tête qu'il y a d'autres joueurs, un adversaire différent, ça va être un match complètement différent, un derby. Il faut justement être capable de renouer avec la victoire, voilà, très vite, c'est ça l'idée. On sait que ça va être compliqué, ça va être match difficile, mais nous on a envie donc de repartir de l'avant, de renouer avec une dynamique positive, quoi.
Et pour terminer cette cinquième journée de Ligue 1, choc entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille demain matin à 5h45, heure de Nouméa. Pour rappel, en ouverture, Nice a écrasé Saint-Etienne 8-0 la nuit dernière. 3 matchs nuls aussi, 3 partout entre Lille et Strasbourg, 1 partout entre Rennes et Lens et match nul surprise aussi entre le Paris Saint-Germain et Reims, 1 but partout là aussi.
Du rugby avec la suite de la troisième journée du top 14.
Oui, suite et fin de la troisième journée, demain matin le Stade français accueillera Toulon à 6h05, heure de Nouméa. On rappelle que le Stade Toulousain est venu à bout de Montpellier en ouverture 20-11. Lyon s'est incliné contre Vannes 30-20. C'est la première victoire du promu en top 14 dans son histoire. Clermont a battu Bayonne 26-10. Démonstration de La Rochelle 49-25 contre la section paloise. Également de Bordeaux-Bègles 52-34 contre le Racing 92. Et puis Castres qui enfonce l'USAP à la dernière place du classement avec une victoire 27-12.
Rugby toujours, énorme surprise lors de la cinquième et avant-dernière journée du Rugby Championship. L'Argentine a battu ce matin les doubles champions du monde en titre, les Springboks. Victoire d'un petit point des Pumas contre l'Afrique du Sud, 29-28. Hier, la Nouvelle-Zélande est venue à bout de l'Australie, 31-28. La dernière journée se disputera le week-end prochain. Les sports mécaniques et le Grand Prix de MotoGP d'Émilie-Romagne à Misano, Léo.
Et oui, le départ de la course principale sera donné ce soir à 22h, heure de Nouméa. On rappelle que sur la course sprint, c'est Francesco Bagnaia sur Ducati qui a remporté la course. Donc, il devance l'Espagnol Jorge Martin sur Pramac et une autre Ducati, celle d'Enea Bastianini. Fabio Quartararo a fait une belle course. Il termine 7e. Johan Zarco, en revanche, a terminé 17e.
La Formule 1.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Les pilotes sont à Singapour pour le 18e Grand Prix de la saison. C'est Lando Norris sur McLaren qui a réalisé le meilleur temps des qualifications. Il partira en première position. Christopher Filloc du service des sports d'Europe 1.
Oui, aucun pilote n'a été en mesure de se rapprocher du Britannique. 6e pole position de sa carrière, la 5e lors des 9 derniers Grands Prix. Le pilote McLaren qui va devoir batailler, livrer un combat rapproché avec à ses côtés un Max Verstappen revenu aux avant-postes. Lui qui n'a plus gagné depuis 7 courses. C'était lors du Grand Prix d'Espagne en juin dernier. On attendait les Ferrari devant, elles seront finalement derrière. 9e place pour Charles Leclerc, la 10e pour Carlos Sainz. Pourtant, l'écurie italienne cumulait les 3 dernières pole positions sur ce tracé. Le Monégasque était au micro de Canal+, alors optimiste pour le Grand Prix ?
Non, enfin on peut essayer de faire quelque chose avec la stratégie, quelque chose de différent, mais il ne faut pas s'attendre au miracle.
Et à défaut de monoplace rouge, les arbitres du duel Norris-Verstappen seront les flèches d'argent avec la Mercedes de Lewis Hamilton qui pour son 350e Grand Prix se place 3e devant son coéquipier George Russell. Oscar Piastri, vainqueur du dernier Grand Prix en Azerbaïdjan, a réalisé le 5e temps devant Nico Hülkenberg, Fernando Alonso et Yuki Tsunoda.
Christopher Filloc pour Europe 1, départ du Grand Prix de Singapour à 23h ce soir, heure de Nouméa.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Le sport côté calédonien avec le retour des compétitions à la piscine du CNC aujourd'hui, Léo Fichou.
Et oui, un circuit dit d'animation qui comporte 4 étapes et aujourd'hui c'était donc la 3e des 4 étapes. Toute la journée, 5 épreuves étaient au programme. Le 200 mètres 4 nages, le 100 mètres papillon, le 50 mètres brasse, le 200 mètres d'eau et puis pour terminer le 100 mètres nage libre, une première compétition depuis le début des émeutes qui a tout de même une petite particularité. Les détails de Stéphane Tichon, conseiller technique de la Ligue de natation de Nouvelle-Calédonie.
Si vous avez suivi les Jeux Olympiques, vous avez série le matin, des demi-finales et des finales. Donc ce sont des courses qui nagent plusieurs fois. Et donc l'esprit de cette compétition, c'est que les nageurs, tous les nageurs, peu importe leur niveau, du premier au dernier, aient l'occasion de nager une fois le matin, une fois l'après-midi et pouvoir prendre en compte un certain nombre de remédiations. Voilà, plutôt que d'organiser une journée de compétition avec des épreuves chaque fois différentes, où finalement le débriefing de l'entraîneur, un mois et demi plus tard, s'il renage la course, les choses, elles ont été un peu oubliées. Donc voilà, c'était essentiellement l'intérêt de cette compétition-là.
Dans le bassin 25 mètres de la piscine du CNC, ils étaient plus de 120 à reprendre la compétition ce matin, des jeunes nageurs et nageuses. Un retour attendu par tous depuis plusieurs mois.
Oui, depuis tout ce qui s'est passé, ça fait du bien de renager en piscine et j'ai amélioré de 3 secondes.
Un peu dur vu que ça fait 4 jours on a nagé en mer parce que les piscines s'est fermées et tout. Un peu dur, mais ça va, il y a une bonne ambiance, il y a le soleil aussi.
Je viens de nager le 204 nage. Franchement, c'est cool, ça faisait longtemps. On reprend un peu les sensations, c'est vraiment bien.
Ça fait, je pense, bien de retrouver les bassins avec tout le monde et il y a une bonne ambiance et c'est sympa.
Ça s'est bien passé, il y a une bonne ambiance et franchement, ça fait du bien de reprendre la compétition.
C'est cool, il y a de l'ambiance, comme il a dit Ethan. Ça fait plaisir de revoir tous les autres copains vu qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. En termes de temps, c'est compliqué vu qu'on a alterné entre en bassin et en mer. Donc c'est un changement d'environnement qui est quand même important. On a quand même réussi à progresser un peu, donc c'est cool.
Tous les résultats de la journée sont à retrouver sur la page Facebook de la Ligue calédonienne de natation. La Ligue qui doit également annoncer les nageurs sélectionnés pour les stages qui sont prévus le mois prochain.
Un mot de kickboxing, on vous en avait beaucoup parlé à l'avance. Le combat la nuit dernière de Cédric Do, le Calédonien fighter qui participait à la soirée du Glory 95 en Croatie. Notre représentant de 29 ans s'est imposé par KO dès le deuxième round sur le Croate Filip Matic. C'est la 35e victoire du Calédonien en 42 combats. Et puis un mot de cyclisme, toujours hors du territoire pour terminer nos pages sport, Léo Fichou.
Hervé Salin est désormais triple champion junior de Bretagne en cyclisme sur piste. Les championnats se déroulaient hier à Pornic et Hervé Salin, en raison de sa double licence prise au club de l'Oudéac, pouvait y participer. Il s'est imposé en finale de la vitesse et du Kérin en individuel, puis en finale de la vitesse également par équipe avec la team de l'Oudéac.
Merci Léo, 18h passées de 17 minutes, l'heure de votre météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Une météo que vous nous détaillez, Maxime, bonsoir.
Bonsoir à tous et bien, pas de vigilance particulière. Tout d'abord pour cette nuit, des nuages circuleront sur la pointe nord ainsi que sur les Loyautés où ils pourront donner quelques gouttes en soirée. Sur la façade est, les nuages et averses se déclencheront. Ailleurs, la nuit finira par être bien étoilée. La côte ouest sera déventée. De la pointe nord-est à Belep, le vent d'est à sud-est sera compris entre 10 et 15 nœuds. Ailleurs, il sera d'est à nord-est avec 10 nœuds. Les températures minimales oscilleront entre 16 et 19 degrés, localement 20 à 22 degrés sur la pointe nord et aux Loyautés. Demain matin, les nuages s'attarderont sur la pointe nord ainsi que sur la côte est où ils donneront encore quelques averses. Aux Loyautés, sur l'île des Pins, quelques nuages contrarieront parfois l'ensoleillement. Sur la façade ouest, le ciel restera dégagé et le vent assez faible laissera progressivement place à des brises de sud comprises entre 5 et 10 nœuds. Sur la pointe sud et l'île des Pins, il sera de nord-est avec 10 nœuds et avec localement 15 nœuds sur la pointe nord.
Merci beaucoup Maxime.